Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Qu'avez-vous au menu ce matin, Cyril ?
Ce matin, je vous parle des journaux qui ne sont pas dans vos kiosques et de l'État qui vole au secours de Presstalis, de Facebook qui va payer une amende de 52 millions de dollars, de Twitter accusé de laisser se propager les contenus haineux, de la finale de Koh-Lanta et d'une drôle de fête de la musique.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Ce qui est le plus fort, c'est Harry Potter. Évidemment, près de 6 900 000 Français ont regardé le cinquième épisode de la série créée par J.K. Rowling sur TF1. Derrière, la série Tandem sur France 3 est juste sous la barre des 4 900 000 téléspectateurs. Enfin, M6 est le troisième de ce podium. Les Baudins ont été regardés par près de 3 500 000 de téléspectateurs. C'est nettement moins bien que lors de leur premier passage sur M6. C'était en avril 2019 et à l'époque, il y avait 4 800 000 téléspectateurs pour suivre leur spectacle.
Oui, mais là quand même, c'était une rediff. 3 500 000 pour la rediff du spectacle passé, le même qui a fait 4 800 000. Si on additionne, c'est pas mal.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par la situation de Presstalis qui s'occupe de distribuer les journaux et les magazines en France. On l'a dit ici, on a souvent traité ce sujet. L'entreprise est en liquidation partielle et pour protester contre cette situation, le syndicat du livre a décidé de bloquer la parution des journaux aujourd'hui.
Ouais, vous risquez d'avoir beaucoup de mal à trouver vos quotidiens nationaux ce matin. Le CGLCE-CGT a appelé à la non-parution des journaux aujourd'hui. Et c'est un mouvement qui pourrait bien durer. Hier, déjà, les quotidiens nationaux et quelques magazines n'ont pas été distribués à Marseille et Lyon. Vous en avez parlé, Philippe Presstalis a déposé le bilan fin avril. La situation est catastrophique pour le distributeur de la presse française. Une audience hier au tribunal de commerce de Paris a permis de mettre sur la table une solution. Mais évidemment, cette solution ne concerne pas l'ensemble de l'activité actuelle, ce qui explique les protestations du syndicat du livre. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, on vient de l'apprendre, l'État va accorder un prêt de 35 millions d'euros à Presstalis.
Et on peut le dire, le déficit de Presstalis s'élève entre 500 et 600 millions d'euros, donc 35 millions, on verra bien. Cyril, vous le disiez dans votre sommaire, Facebook va devoir sortir son carnet de chèques pour payer une lourde amende.
Oui, Facebook va devoir payer 52 millions de dollars aux équipes de modération qui travaillent pour la plateforme et qui souffrent de troubles de stress post-traumatique.
Non.
En tout, ce sont 11 250 personnes qui sont concernées par cet accord négocié entre Facebook et les plaignants. Elles toucheront toutes au minimum 1 000 dollars chacune. Effectivement, la somme est grosse, mais il y a beaucoup de plaignants. Ça fait plusieurs années que Facebook est très critiqué pour la gestion des équipes qui s'occupent de la modération des contenus. Vous savez, en fait, ce sont eux qui s'occupent, qui doivent intervenir pour vérifier si des messages peuvent être considérés comme haineux, diffamatoires, racistes, ou plus largement, s'ils ne respectent pas les règles d'utilisation de Facebook. En tout, Facebook emploie plus de 30 000 personnes à travers le monde, rien que pour cette tâche. Mais en fait, toutes ces équipes ne travaillent pas directement pour l'entreprise de Mark Zuckerberg. Elles sont le plus souvent en contrat avec un sous-traitant. Mais je vous le disais, plusieurs enquêtes ont mis à jour les conditions très difficiles dans lesquelles ces employés travaillent. Ils sont nombreux à se plaindre de ce qu'ils doivent regarder quotidiennement. Des images de meurtres, de viols, de suicides, des vidéos de décapitation mises en ligne par des terroristes. C'est ce qu'on appelle évidemment un environnement de travail particulièrement lourd. Même si, on le sait, Facebook se repose de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour surveiller ce qui est mis en ligne, ces robots sont perfectibles et ce sont donc à ces modérateurs d'éviter que les contenus indésirables restent en ligne trop longtemps, et le tout à un rythme de travail extrêmement élevé. Pour vous donner une idée, chaque seconde, 4000 photos sont publiées sur Facebook. J'ai bien dit 4000 photos par seconde.
Oh là là.
Alors, évidemment, toutes ne demandent pas l'intervention de ces modérateurs, mais ça vous donne une idée de l'amas de données qui doivent être traitées chaque jour par ces petites mains de Facebook, et le plus souvent pour des salaires pas très élevés. Il y a presque 2 ans, plusieurs d'entre eux, donc plus de 11 000, ont décidé de saisir la justice pour se plaindre de leurs conditions de travail. C'est ce qui a mené à cet accord. Facebook va donc leur verser 52 millions de dollars, et l'entreprise est également engagée à mieux accompagner ses équipes au quotidien.
Cyril, on reste du côté des réseaux sociaux et de la justice, mais cette fois, cela se passe en France.
Et c'est encore un sujet lié à la modération. Cette fois, c'est Twitter qui est mis en cause. 4 associations de lutte contre les discriminations l'accusent de manquer de manière ancienne et persistante à ses obligations en matière de modération de contenu. L'Union des étudiants juifs de France, J'accuse, SOS Racisme et SOS Homophobie ont mené leur propre étude entre le 17 mars et le 5 mai. Et elles affirment que les contenus haineux ont grimpé de 43% sur Twitter au cours de cette période de confinement. Les associations disent avoir signalé 1110 tweets haineux et parmi eux, seuls 12% ont été supprimés dans ce que les associations appellent une période raisonnable qui va de 3 à 5 jours. Des résultats jugés intolérables par les plaignants qui ont donc saisi la justice pour obliger Twitter à agir plus vite.
Et puis Cyril, après cette séquence justice, on va revenir à quelque chose de plus léger, la finale de Koh-Lanta.
Le dénouement est proche et les fans du jeu d'aventure de TF1 attendaient de savoir quand les aventuriers allaient se retrouver sur des poteaux. Eh bien, nous avons la réponse. La finale se déroulera en 2 parties. Oui, c'est la mode cette année à cause du coronavirus. La première soirée sera diffusée le vendredi 29 mai avec l'épreuve d'orientation comme plat de résistance, un moment toujours très stressant pour les candidats. Et la seconde partie de la finale aura lieu la semaine d'après, le vendredi 5 juin donc, avec l'épreuve des poteaux et l'ultime conseil avec la consécration du grand gagnant ou de la grande gagnante de cette saison. On n'en sait pas encore beaucoup plus sur la manière dont cette dernière soirée sera organisée. Seul élément, ça se passera bien en direct et évidemment sans public. Et je vous le disais, Koh-Lanta a beaucoup été découpé cette saison. L'émission le sera encore ce vendredi.
Alors ce sera le 21 juin, on connaît la date. France 2 prépare la fête de la musique, mais évidemment dans des conditions un peu particulières.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. La chaîne qui organise chaque année un concert en plein air a dû changer ses plans. Et le nouveau est pour le moins surprenant. France 2 a décidé de louer l'Accor Arena, une salle de 20 000 personnes qui n'accueillera personne. Et oui, les restrictions sanitaires empêchent d'organiser des concerts. Et celui de France 2 ne dérogera pas à la règle. Les artistes vont donc se produire sur la scène de Bercy, mais dans une salle vide. Ils n'auront pour seul public que les techniciens pour sur place pour les filmer. Mais France 2 tenait à maintenir ce rendez-vous. Alexandra Redamiel, la directrice du divertissement de France 2, y voit une manière de soutenir les salles qui ne peuvent pas ouvrir et les festivals qui ont été annulés. Dans Le Parisien, elle annonce qu'une trentaine d'artistes devraient participer à ce concert un peu particulier pour eux quand même.
Après Hélène et les garçons, je suis étonné que vous me parliez de ça, mais en même temps je m'en doutais un peu, les miracles de l'amour, les vacances de l'amour et aujourd'hui les mystères de l'amour. Question Cyril Lacarrière, je m'adresse au grand journaliste média que vous êtes, est-ce qu'on aura bien bientôt une nouvelle déclinaison amoureuse de la sitcom. La France retient son souffle et vous écoute.
Oui, préparez-vous, roulement de tambour, c'est ce qui semble bien se profiler. Nicolas Puydebas, le comédien qui incarne Nicolas dans la série, révèle à nos confrères de Télé Loisirs qu'il veut lancer un nouveau concept. Alors non, Hélène, ça suffit de tirer la couverture à toi. Les garçons ont décidé de s'émanciper. Nicolas Puydebas travaille en ce moment même à une nouvelle série, mais uniquement avec les garçons, Cricri, Peter, José et Jimmy. Mais cette série ne serait pas vraiment en fait une nouvelle série. Selon Nicolas, chaque comédien portera son véritable prénom dans cette série, comme Nicolas qui porte déjà le prénom de Nicolas. Mais à en croire Nicolas Puydebas, le pilote, lui, est déjà écrit. Reste à trouver un producteur, peut-être AB, qui sait, et une chaîne.
Merci beaucoup. On me dit dans l'oreillette que c'est Patrick Puydebas, me dit Jérémy, c'est son vrai prénom à Jérémy. Je crois qu'il s'appelle Patrick Puydebas. Cyril Lacarrière.
J'ai essayé de l'appeler Nicolas Puydebas.
Vous êtes
d'intoxication à la série. Voilà. Pour moi, il s'appelle Nicolas, ce garçon.
Cyril Lacarrière et son coming out sur Hélène et les garçons. Merci beaucoup, Cyril. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média, qui continue évidemment avec dans un instant notre info média du jour, avec une émission qui aide les plus jeunes à décrypter, à comprendre le monde qui les entoure. Je parle de C'est toujours pas sorcier sur France 4. Déclinaison de ce que vous savez. Nous serons avec l'un de ses présentateurs, Max Bird. Juste après ça.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Explorer les océans, partir à la découverte des dents, oui, des dents, connaître les dangers de la montagne ou alors ceux du sucre, c'est ce que propose l'émission C'est toujours pas sorcier, de retour depuis lundi sur France 4, c'est du lundi au vendredi à 13h30, c'est la petite sœur de C'est pas sorcier et qui a été lancée en décembre dernier et depuis elle cartonne sur le web et sur France 4 et nous sommes avec Max Bird, l'un des 3 présentateurs de l'émission, bonjour.
Bonjour.
Quel âge vous avez, Max Bird ?
J'ai 29 ans.
Voilà, moi pas loin. Max Bird, vous êtes comédien et ornithologue. Je ne savais pas que c'était possible d'être les deux. C'est quoi votre parcours ?
Non, je ne suis pas ornithologue. Je suis ornithologue amateur, on va dire. J'ai vécu en Guyane française et j'ai été très, très, très actif. J'ai pris beaucoup de photos et renseigné beaucoup de choses sur les oiseaux. Mais ça reste
d'accord. En fait, si j'habitais à côté du Mans, je dirais que je suis garagiste à cause des 24 heures.
Non, c'est... Il y a énorme... En fait, la plupart des gens qui sont ornithologues ne sont pas souvent des gens qui sont diplômés. Il y a beaucoup de gens qui font avancer l'ornithologie de manière totalement amateur alors qu'ils sont professeurs dans la vie. Quoi.
Voilà, mais vous avez fait quand même, si je suis bien renseigné, vous avez quand même fait des études de biologie.
Non, j'ai appris sur le tas, en fait, en Amazonie, avec des biologistes qui, eux, connaissaient un peu mieux les choses que moi. Et moi, j'ai fait des études de théâtre, moi, de mon côté.
D'accord. Aujourd'hui, vous présentez C'est toujours pas sorcier. On va entendre le générique. J'aime bien la pédale Wawa. C'est quoi la différence avec ces pas sorciers présentés par Jamy Gourmaud et Fred aussi entre 93 et 2014 sur France 3? Quelle différence?
Ben pour moi, c'est on s'adresse à une nouvelle génération qui a pas forcément, j'ai envie de dire qui a pas forcément connu, même si les épisodes de l'émission originale sont rediffusés régulièrement et surtout ils sont montrés en cours par les professeurs. Donc je me rends compte que même les générations qui sont arrivées après la fin de la diffusion de la première saison, ils connaissent quand même tellement ça a marqué tout le monde. Quoi.
Mais alors vous avez rebattu toutes les cartes. Est-ce que c'est le même programme fait par d'autres gens et des gens plus jeunes ou est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que le format, l'architecture a été modifié? Racontez.
Non, le but du jeu est toujours de prendre des thèmes les plus larges possibles et d'essayer de dérouler, on va dire, le thème pour que ce soit hyper intelligible, hyper clair et qu'on ait envie de ne pas lâcher l'épisode. Donc là-dessus, oui, le concept, mais il est repris par la même chaîne. Et donc, on va dire que le but du jeu étant de faire une bonne émission de vulgarisation scientifique, une bonne émission qui éveille la curiosité. Et avec une telle marque, ça assure que ça va séduire les parents et fans de la première génération de mettre leurs enfants devant une bonne émission éducative plutôt que devant des bêtises.
Mais je suis d'accord avec vous, changer pour changer, c'est parfois complètement débile. Qui est votre public ?
Ben je saurais pas vraiment bien répondre à cette question. Moi, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique sur Internet et je fais un spectacle de vulgarisation scientifique et je touche d'habitude plutôt les 15-30 ans. Et là, pour moi, c'est pas sorcier. Du coup, ça va être justement la génération juste avant.
D'accord. Donc c'est quoi?
Ouais, ça va être les 7-15 ans quoi du coup.
D'accord. L'émission marche très fort sur le web et en linéaire. En linéaire, ça veut dire à la télé normale diffusée en temps réel. Vous avez les audiences?
Non, je ne peux pas vous les. Je me renseigne pas assez et surtout comme c'est diffusé sur plein de plateformes différentes, je pense qu'il faudrait faire un total de tout ça. En tout cas, nos collaborateurs sont très 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 contents.
Ah, moi je veux le dire parce
que on est en train de lancer la saison 2 et il est fort probable qu'une 3 soit dans les tiroirs quoi.
Non, je peux vous dire parce que Lise Pressac, qui est la rédactrice chef de l'émission, elle a fait le total et je peux vous dire que votre émission a généré plus de 1 million de vidéos vues depuis le 9 décembre sur les 4 écrans.
Ah, oui.
Il y a Oku plus Fonda, je suis content de vous l'apprendre. Ils vous parlent pas vos patrons de chaîne?
Et à l'antenne. Si, mais en fait, je reçois beaucoup d'informations et je n'intègre pas tout.
Et depuis le début du confinement, avec sa nouvelle exposition du lundi au vendredi à 13h30, ça rassemble 13,2% de part d'audience sur les 4-14 ans, ce qui est quand même pas rien, ce qui est considérable. Question, comment s'est passé le confinement pour vous? Tous les tournages de C'est toujours pas sorcier ont été à l'arrêt ou pas du tout?
Oui, en fait, on avait commencé à tourner la saison 2 et on a dû s'arrêter un peu en cours de route à cause du confinement. Mais on a vite bossé pour pouvoir sortir les épisodes le plus vite possible. Donc on a déjà 7 épisodes qui sont disponibles sur cette deuxième saison. Et donc, dès qu'on pourra reprendre les tournages, on terminera cette saison 2.
Ouais. Vous y êtes dans votre grotte en attendant.
Voilà, c'est ça. C'est dans la grotte Chauvet qui est un des épisodes qui arrive.
Mais vous avez vu cet enchaînement, parce que la saison 2 a commencé, le premier épisode est consacré à la grotte Chauvet, trésor de la préhistoire, peinte il y a 36 000 ans, et à l'aide d'une maquette, ce que vous n'êtes pas tout seul, vous, Max Bird, Cécile et Mathieu, vous expliquez aux enfants l'histoire de cette grotte.
Waouh ! Mais elle a l'air immense, cette grotte !
Tu crois pas si bien dire, elle est monumentale. Certaines salles de la grotte mesurent plus de 20 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Et la grotte mesure plus de 200 mètres de son entrée à son extrémité. À l'époque des hommes préhistoriques, l'entrée se trouvait ici.
Qu'est-ce qui s'est passé là? L'entrée, elle est toute bouchée.
Eh bien, il y a un peu plus de 20 000 ans, la falaise qui surplombait l'entrée s'est effondrée. Plus personne n'a pu entrer. Et le trésor qui se trouvait dans la grotte a été conservé.
On apprend plein de choses, même quand on a plus de 12 ans, en fait.
Mais en fait, c'est ça, quand on parle de la cible, un des trucs qui était fondamental avec C'est pas sorcier et qu'on essaie de refaire aujourd'hui, c'est que ça peut intéresser tout le monde et que si on prend un sujet et qu'on le rend hyper digeste et qu'on le prémâche beaucoup, ça devient aussi une énorme chance pour des adultes qui connaissent pas forcément le sujet et qui vont avoir une porte d'accès vachement digeste. Et c'est un des trucs qui est génial. Il faut qu'on fasse un programme qui captive les enfants et qui font que les adultes, quand ils passent devant la télé, ils s'arrêtent, font et il reste. Et quand on arrive à faire ça, ça veut dire que c'est une mission accomplie.
Vous m'avez fait très très peur. J'ai cru que c'était le son du virus. Max Bird, vous restez avec nous. Il y a beaucoup d'intelligence dans votre émission. C'est toujours pas sorcier. Et il y a même une intelligence artificielle. On en parle juste après ça.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Max Bird, un des présentateurs de l'émission C'est toujours pas sorcier, c'est sur France 4 du lundi au vendredi. Ça vient de démarrer à 13h30. Et évidemment, quand on veut, sur Oku, qui est la plateforme de France Télévisions. Parmi les autres épisodes de la saison 2 qu'on va voir, il y aura Explorer les océans, Partir à la découverte des dents, je l'ai dit dans le sommaire, Les dangers de la montagne, Chercher l'or. Comment vous choisissez les thèmes ?
Moi, ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans l'émission originale, c'est ça, c'est que ce sont des thèmes très larges. Et c'est ça qui donne envie de regarder, je trouve. Parce qu'on a cette espèce de promesse, si on dit, bam, les dents, on sait qu'on va essayer de faire un 360 de ce qu'on peut dire sur le sujet. Et donc, le but du jeu est toujours de trouver des titres de thèmes assez larges et de faire en sorte de vraiment synthétiser l'essentiel dans l'émission de 20 minutes, quoi, 25 minutes.
Comment se fait la répartition? Parce que vous n'êtes pas seul entre vous, avec Cécile Djunga, qui est humoriste et comédienne, et Mathieu Duméry, qui est plutôt vidéaste. Comment vous répartissez les rôles? Racontez une émission, comment ça se passe, comment ça se déroule?
Mais en fait, déjà, il faut polariser un peu les trois personnages pour pouvoir créer toujours une petite fiction dans chaque épisode. Donc, c'est pour ça on essaie de nous polariser un petit peu. Moi, je vais plutôt être maniaque à rester dans la cabane et à essayer d'avoir réponse à tout. Cécile va plus être l'exploratrice et Mathieu va souvent être le bout en train, on va dire, celui qui va être un peu prétentieux et tout ça. Et après, ça va être aussi sur le fait, eux, ils vont plutôt être dans l'exploration et dans le test et dans l'expérience sur le terrain, pendant que je vais être dans l'explication avec les maquettes, quoi.
Ouais, vous avez le rôle qu'avait autrefois Jamie dans l'émission, avec les lunettes et puis les maquettes avec de la pâte à modeler et des morceaux de bois.
Voilà, après j'ai des lunettes dans la vraie vie, hein. C'est pas des lunettes ces lunettes rondes, je les ai depuis 5 ans. Après, est-ce que j'ai choisi des lunettes rondes à l'époque en étant déjà influencé par Jamie qui est mon idole depuis toujours?
C'est vrai, possible. C'est votre idole?
Ah, c'est mon idole depuis toujours. J'ai même pu faire une vidéo avec lui sur ma chaîne YouTube. Techniquement, une de ses premières apparitions sur YouTube, je crois même que sa première apparition sur YouTube, c'était dans une vidéo de ma chaîne.
Comment vous travaillez? Vous avez des historiens, des scientifiques qui vous aident. C'est très documenté, très bien écrit.
Oui, voilà.
Aussi.
Ça, c'est une des choses que j'adore par rapport à mon travail que je fais sur YouTube, où je suis un peu tout seul pour faire les recherches et c'est à moi d'aller chercher des experts pour leur parler. Ici, on travaille avec une équipe de journalistes scientifiques et c'est un régal parce que sur chaque épisode, on a accès aux experts, quoi. Donc c'est vraiment super. Ça permet de relire, de fact-checker et on est vraiment, enfin, moi, depuis que je fais cette émission, j'ai beaucoup plus de mal à faire mes vidéos de vulgarisation scientifique sur le web, parce qu'avoir une équipe qui fait tout ça, qui nous aide à tout comprendre, c'est génial.
Alors, vous êtes comme les trois mousquetaires, parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment trois, vous êtes quatre, en fait, et le quatrième s'appelle Samy.
Voilà. Si vous avez besoin d'un assistant pour prédire la météo des neiges, n'hésitez pas, je peux vous aider.
Non, merci, Samy, mais non, merci.
Alors, si vous avez besoin d'un assistant pour vous diriger sur les pistes, je suis disponible.
Mais non, Samy, on connaît le chemin. De toute façon, c'est tout droit et en descente.
Et un assistant pour prédire les avalanches qui sont assez régulières à la montagne?
Les avalanches?
Samy, j'ai l'impression que t'aurais bien aimé qu'on t'amène avec nous pour cette journée à la montagne.
Peut-être un peu.
Qui est Samy?
Eh ben, c'est une sorte de box super intelligente connectée à tout le savoir du monde, donc qui peut nous reprendre et nous envoyer des images au fur et à mesure de l'épisode. Donc ouais, censé l'avoir construit moi-même, mais évidemment c'est pas le cas.
D'accord, mais c'est une sorte d'intelligence artificielle, artificielle en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, qui a quand même beaucoup de sentiments d'émotion, surtout sur cet épisode qu'on vient d'entendre sur les avalanches. Il est très amusant dans celui-ci.
La saison 2, on a dit, ça a été tourné. Est-ce que vous avez déjà signé pour la saison 3? Où est-ce que vous en êtes et que disent les chaînes?
Alors, pour l'instant, moi, on n'a pas de confirmation là-dessus, mais tous les voyants sont au vert. L'émission se porte très bien. On a des bonnes audiences, les retours sont super, donc je pense que il est raisonnable de penser qu'il y aura une suite. Ouais.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que l'émission sera toujours diffusée sur France 4? J'expliquais à nos auditeurs qui pourtant suivent la vie des médias. Trop. Mais je raconte quand même ce qui se passe, c'est que France 4, dont la fin était programmée le 9 août, c'est très précis, puisque après le 9 août, les Jeux Olympiques de Tokyo devaient s'arrêter. Et donc, comme France 4 allait co-diffuser avec la 2, la 3 et la 5 des épreuves, elle allait s'arrêter et laisser seulement place au site Oku, le site de France Télévisions. Et là, des députés sont en train de remettre en cause, députés portés par Aurore Berger, mais pas seulement, mettre en cause la disparition de France 4, puisqu'on voit son utilité, voire même son caractère indispensable pendant le confinement, comme chaîne, comme vecteur, comme canal d'éducation. Qu'est-ce que vous savez ?
Moi, j'avoue, je ne sais rien, et surtout, c'est pas des questions qui m'intéressent beaucoup à la base. Maintenant, je pense que si on arrive à transférer, on va dire, le public et cette cible-là sur la plateforme, et que maintenant ça devient la nouvelle manière de consommer ce genre de programme, pourquoi pas. Mais effectivement, je pense que qu'il y ait une chaîne qui s'adresse à la jeunesse et qui fasse, on va dire, un travail sérieux, ça me paraît effectivement assez indispensable. Donc,
et d'un mot,
tant que le public a un accès facile à ces programmes-là, ça me va.
Et d'un mot, Max Bird, est-ce que votre présence dans C'est toujours pas sorcier a ramené du monde sur votre chaîne YouTube à vous?
Non, je remarque ça dans mes spectacles. En fait, quand je joue mon spectacle, qui s'appelle l'encyclospectacle, d'habitude j'ai des gens de ma génération, des gens de mon âge, donc on la vingtaine, la trentaine. Maintenant, j'ai des familles qui viennent avec des enfants, donc je sens qu'il y a un impact quand même. Il y a un nouveau public qui découvre mon travail. Ouais.
Formidable. Merci beaucoup, Max Bird. C'est toujours pas sorcier. C'est sur France 4 du lundi au vendredi à 13h30, et c'est évidemment quand on veut sur Oku, O-K-O-O, la plateforme de France Télé. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci Philippe, au revoir.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler abdo-fessier. Oui, nous serons avec la coach la plus connue de la télé, c'est Sandrine Arcizet. Elle présente tous les matins sur C8 l'émission Gym Direct. Et puis il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis Jean-Philippe Thiellet, le président du tout nouveau Centre National de la Musique, qui s'apprête à verser 50 millions d'euros pour sauver le secteur de la musique ou ce qui peut l'être. Il nous dira comment, pourquoi, on le sait pourquoi. Parce qu'il faut les sauver. Nos indispensables de l'humour avec un spectacle disponible sur Amazon Prime, celui de l'humoriste Caroline Vigneault qui a quitté sa robe d'avocat pour la scène, et Louise Bernard l'a vu pour nous. Et puis de la cuisine avec des recettes faciles à faire, très très faciles à faire, petit, je ne vous dis que ça. Ce sera avec Marion Sauveur, qui nous attend en cuisine juste après ça.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, nous sommes avec Sandrine Arcizet. Elle anime tous les matins sur C8 Gym Direct. Et pas seulement, il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis Jean-Philippe Thiellet, le président du tout nouveau Centre National de la Musique. Il va détailler les mesures d'aide concernant le monde de la musique. 50 millions d'euros, c'est pas rien. Nos indispensables de l'humour et de la cuisine, juste après ça.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Alors autrefois, la gym à la télé, c'était ça. Et alors désormais, la gym à la télé, c'est ça. Bonjour Sandrine Arcizet.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous reconnaissez cette musique?
Bah bien sûr,
dites.
Une musique très connue depuis 2005.
C'est votre générique, ça s'appelle Gym Direct ou Gym? Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle Gym Direct.
Voilà, parce qu'autrefois la chaîne C8 s'appelait Direct 8. Vous êtes une matinale, en tout cas votre émission est matinale. C'est tous les jours Gym Direct à 6h du matin sur C8. On a été alerté par un article de Satellifax il y a 2 semaines qui claironne. Gym Direct, plus de 30 millions de vidéos vues depuis le début du confinement. Moi je crois au contraire que les Français se laissaient aller et avaient grossi en moyenne de 2,5 kg, pas vous?
Alors c'est vrai qu'on dit qu'ils ont grossi de 2,5 kg, mais il y a énormément de gens qui se sont mis au sport. Il y a plein de sportifs maintenant en France.
Ouais.
Le confinement oblige. C'est vrai que les gens sont, on était tous confinés à la maison, à plus pouvoir avoir nos activités quotidiennes, à bouger comme on pouvait le faire, ne serait-ce que marcher. Hein, plusieurs. Enfin.
Non mais moi ma question était plus simple. Vous, est-ce que vous avez pris des kilos ou des grammes ou pas du tout?
Alors au début, c'est vrai que je me laissais un petit peu aller en disant, oh, tiens, je vais un peu grignoter de temps en temps, ce que je ne fais jamais en fait. Vraiment ce que je ne fais jamais, je ne grignote pas. Et puis, non, j'ai pas pris de kilos parce que moi je suis une sportive et que je fais du sport et que j'ai quand même une bonne hygiène alimentaire.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'on peut être tenté en restant à la maison
de
grignoter.
Évidemment.
On passe par la cuisine, un petit gâteau.
Écoutez,
un petit
décrivez pas, tous les gens qui nous écoutent savent où est la cuisine, où est le frigo, où est-ce qu'on peut trouver des trucs pour grignoter. Alors, vous animez animez l'émission depuis 7 ans, mais on peut également vous voir à n'importe quelle heure via MyCanal. Je précise que C8 appartient au groupe Canal, mais également sur YouTube, sur Dailymotion. Oui. En tout, plus de 1000 cours sont disponibles gratuitement. Et désormais, vous donnez également des cours en Facebook Live sur la page de Gym Direct tous les jours à 18h. 1000 cours en stock, ça suffisait pas. Il fallait en plus des cours neufs.
Mais en fait, c'est bien parce qu'on retrouve les gens. On a l'impression vraiment d'être chez eux là, complètement le soir en Facebook Live. J'ai plein de commentaires, plein de gens qui avaient envie d'avoir cette proximité entre guillemets, même si c'est quand même virtuel. Hein. Mais vraiment, on a vraiment l'impression d'être avec eux. Ils m'envoient des messages. Merci de nous faire bouger. Merci d'être là.
J'aimerais que vous disiez quelque chose. Non, je vais vous dire parce qu'il y a plein de gens qui prennent des cours et qui disent mais j'ai l'impression que la prof me voit quand on donne un cours, on ne voit pas les gens qui vous suivent.
Non.
Rassurez tout le monde.
Oui, non, ça va, je n'ai pas des yeux bioniques. Non, pas encore. Non, mais c'est, en fait, quand on est coach, diplômé, on a appris à donner des cours. Ouais. Pendant la formation, j'ai appris ça. Donc, c'est une certaine pédagogie. On donne des cours assez ludiques. Donc, on sait plus ou moins ce qui va se passer chez les gens.
Ouais.
À quel moment ils vont avoir mal à un moment donné. À quel moment ils vont lâcher. À quel moment ça va être compliqué pour eux. Donc, moi, depuis toutes ces années, je sais quand même me mettre à la place des gens qui sont chez eux, qu'ils soient confirmés ou qu'ils soient débutants.
On va parler de ça.
Et donc
on va parler de votre public.
C'est pour ça qu'ils ont l'impression que je suis chez eux.
D'accord. Alors, Facebook Live, je le raconte, c'est sur votre page, plutôt sur Facebook, il y a une page Gym Direct. Tous les jours à 18h, des cours en direct. On va voir un exemple. Vous avez donné un cours, il y avait un thème. Le thème, c'était parents-enfants avec votre fils.
Comment ça va ? Salut tout le monde ! Bonjour tout le monde ! On espère que vous allez bien. Soit une séance parents-enfants en famille. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez quand même faire la séance avec nous, mais je vous conseille peut-être d'aller chercher un sac à dos.
Et là, je pense à tous les gens qui n'ont pas le bonheur d'avoir des enfants, mais qui ont quand même un sac à dos. C'est vraiment super, quoi. Il a quel âge, votre fils?
Il a 4 ans et demi. Il a 4 ans et demi. Et c'est lui, en fait, qui m'a demandé, parce qu'en me voyant le soir faire mes cours à la maison, il m'a dit, oh, moi aussi, maman, je veux faire avec toi. Et je me suis dit, bon, allez, pendant le confinement, pourquoi pas. Ouais. Et donc, on a essayé une séance, et puis deux, et puis trois. Alors, c'est pas évident, parce qu'il a 4 ans et demi. Donc, à cet âge-là, c'est quand même, ça peut lâcher facilement le cours. Donc, à un moment donné, il m'a abandonné en plein milieu du cours. Mais c'est pas grave, c'est ce que je disais aux gens. C'est vraiment, on est là pour s'amuser aussi avec ses enfants, avoir un moment de complicité, bouger tous ensemble.
Ouais. Donc, il y aura un cours tout à l'heure à 18h.
Oui, il y aura un cours tout à l'heure à 18h parce que c'est vrai que beaucoup de gens me demandaient est-ce que pendant le déconfinement je vais continuer ces Facebook Live. Et oui, je continue parce que les gens ont encore envie, en tout le cas par rapport aux messages qu'ils m'envoient, que je sois là avec eux pour leur donner des cours, ceux qui
vont
travailler.
J'arrive pas à vous poser une question, s'il vous plaît. Ça sera quoi le thème aujourd'hui du jour?
Alors, le thème du jour, on va travailler les fessiers, 100% fessiers ce soir.
Ouais.
Voilà, on va renforcer les fessiers. Alors, donne des cours en fonction un peu de ce que me demandent les gens quand je vois les messages passer.
Ouais.
Voilà, le plus grand nombre, je fais en fonction de ce qu'ils ont envie de faire.
Voilà, et j'imagine que votre fils de 4 ans qui vous a conseillé, vous a dit « j'ai un problème de fessiers, on pourrait pas faire un cours là-dessus pour que je me... » Je dis ça
non,
parce que je l'entends derrière vous.
Pas. Oui, c'est ça. Bah oui, il est avec moi. Alors, je lui ai dit d'être discret là ce matin parce que j'étais avec vous à la radio.
Mais non, c'est pas grave. La radio, il faut que ça vive. Il a bien raison d'être là. Ça fait vraiment plaisir. On a plein de questions à vous poser. Et on n'a pas encore fait entendre la manière dont vous montrez les cours à la télé sur C8 et ce qu'on peut retrouver sur MyCanal. Et également, qui est votre public, à qui vous adressez. Vous restez avec nous, Sandrine Arcizet. On marque une toute petite pause. À tout de suite.
Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Sandrine Arcizet qui présente Gym Direct, c'est tous les jours à 6h du matin sur C8 et sur MyCanal et les plateformes évidemment YouTube et Dailymotion. On a regardé vos cours, moi j'y connais rien. Pour savoir de quel niveau c'est, Louise Bernard, notre journaliste, a regardé deux cours hier. Enfin, je veux dire qu'elle les a fait entièrement depuis son salon. Elle a fait une séance abdos-fessiers intense et une séance renforcement haut du corps. Et elle m'a dit que c'était à la fois très accessible mais que ça bossait dur. Vous êtes d'accord avec elle ?
Oui, exactement. C'est très accessible parce que j'essaie de faire aussi des cours pour les débutants qui viendraient de s'y mettre et puis pour les confirmer. Donc, c'est plutôt des cours intermédiaires. Ça s'adresse à tout le monde.
Il y a souvent deux... Parfois, vous êtes toute seule, mais souvent, il y a deux personnes avec vous. Comment vous choisissez les gens qui sont avec vous ? C'est des figurants, c'est des amis, ils sont payés, ils sont rémunérés, ils sont volontaires ?
Non, non, non. Ils viennent gratuitement et ce sont des gens qui s'inscrivent via le mail de Gym Direct.
Ouais.
Et donc, quand j'arrive sur le cours, je ne sais pas avec qui je vais faire la séance. Donc, parfois, ce sont vraiment des débutants, des gens plus confirmés. Donc, c'est à moi de m'adapter en tant que coach aux gens que j'ai derrière moi et aussi le public qui va suivre après cette séance à la maison.
D'accord. On a repéré qu'ils sont ravis de passer à la télé et qu'en font plus que ce qui leur est demandé. Louise m'a montré une image et pendant votre échauffement, vous pliez les jambes, les mains sur les hanches, vous imaginez, vous pliez les mains sur les hanches, mais il y a un gars qui plie les jambes, mais il lève les pouces pour faire « Ok, c'est bon, j'y suis, je suis à la télé, je suis trop content !» Il est dans votre dos, vous ne l'avez pas remarqué celui-là.
Non, ça j'avais pas remarqué. Mais c'est vrai que les gens sont motivés aussi parce qu'ils passent à la télé, effectivement. Mais il y a quand même de bons sportifs et des gens qui ont vraiment envie de s'y mettre et qui là, pour le coup, viennent. Gym Direct, c'est gratuit. Hein. Donc quand ils viennent sur le plateau, c'est gratuit. Ils suivent quand même un cours avec un coach gratuitement. À la maison, c'est gratuit aussi. Ils ont plein de cours différents avec plein de disciplines différentes parce qu'on fait du cardio, du renforcement musculaire, du stretching, du pilates, du yoga, enfin de la danse. Il y a énormément de cours. C'est vraiment la plus grande salle de France Gym Direct.
Ouais.
Donc effectivement, ils sont contents mais en même temps de passer à la télé, mais en même temps ils sont contents de faire du sport aussi.
Alors Louise Bernard ce matin me disait, mais elle maîtrise parfaitement les exercices, elle n'a pas l'air d'éprouver la moindre difficulté, elle parle de vous, elle dit elle parvient même à garder sa coiffure et son maquillage impeccable. Comment fait-elle? Comment faites-vous? Vous entraînez combien d'heures par semaine?
Non, je m'entraîne pas tant que ça. Finalement, là, pour le coup, tous les jours, je m'entraîne. Je fais un entraînement avec les personnes
que
je fais grâce à
Facebook. Mais on dirait que vous transpirez jamais. On dirait que vous souffrez jamais.
Oui.
Alors que derrière vous,
j'ai de la chance entre guillemets. J'ai de la chance entre guillemets parce que c'est vrai que je ne transpire pas. Donc pour le coup, effectivement, je ne dégouline pas sur le plateau. Voilà, ça c'est mon métabolisme qui est comme ça. Et puis après, j'ai vraiment l'habitude de le faire. Je ne suis pas essoufflée. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est très facile de parler et en même temps faire les exercices, de motiver les gens parce que c'est hyper important de les motiver et de les garder avec soi.
Mais tellement vous êtes tonique pour les motiver, vous donner des indications, limite des injonctions, la preuve.
Allez, 8. 4, 3, 2, droite et gauche.
J'adore ce son, on va le réentendre.
Droite et gauche.
Droite et gauche. On dirait un chef de gare, j'adore.
Oui, c'est un peu ça. Mais je suis obligée parce que je ne suis pas avec eux hein, quand même. Ouais. Je les vois pas finalement, vraiment pas. Enfin, même si on a l'impression que je les vois, mais je les vois pas. Donc il faut vraiment à travers l'écran motiver les gens. Donc pour les motiver, bah oui, je suis obligée de faire des petits apps. Allez, on y va, c'est parti, tous avec moi. Voilà, ça les motive. Les gens adorent. Hein. Et d'ailleurs, quand je fais mes petits apps et tout ça, les gens ils me disent oh, c'est génial, vous nous motivez, vous êtes là pour nous, ça nous fait du bien, ça nous permet de bouger, etc. Ça nous vide la tête. C'est hyper important parce que là, pendant le confinement, je reviens juste au confinement, parce qu'avec les Facebook Live, c'était surtout pendant le confinement, les gens avaient besoin de se vider la tête et le sport est bénéfique pour ça, hein, pour le moral. Hein,
évidemment.
Et aussi pour sa santé, bien sûr.
Comment se renouveler dans les exercices que vous proposez? Qui conçoit les séances? C'est vous? Il y a un plan ou c'est un peu au jour le jour? Comment vous faites?
Alors oui, c'est moi qui conçois bien sûr toutes les séances. Après, moi, j'ai des exercices, j'en ai à l'appel. Hein, plus le temps que je fais ça. Après, je me renouvelle. J'essaie de trouver d'autres exercices pour travailler les abdominaux, les fessiers différemment, pour pas qu'on travaille de la même façon à chaque fois et que notre corps ne s'habitue pas justement à ces exercices. Hein, c'est important pour le corps de varier un petit peu les exercices pour qu'ils se renforcent bien et que on éprouve d'autres sensations. Donc voilà, j'essaie vraiment de varier, mais en faisant toujours bien attention. C'est ça qu'il faut dire aussi. Peut-être que vous allez y venir. C'est la sécurité des gens quand on fait une séance comme ça, quand on est à la maison, on est tout seul, même si je suis là, je suis pas vraiment avec eux. Donc la sécurité, c'est hyper important, donc de bien dire, serrer le ventre. Alors je me répète, on a l'impression que je radote un peu, mais je me répète beaucoup dans les séances, parce qu'il faut absolument qu'ils serrent le ventre, absolument qu'ils aient les genoux fléchis, le dos droit, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la séance, et effectivement, bah, je trouve toujours des exercices à faire, des exercices qui reviennent régulièrement, qui sont très très bons, donc je les garde, mais je les adapte, je les fais différemment, et d'une séance à l'autre, on varie les choses, comme ça il y a plus de plaisir.
Vous avez un nouveau concurrent qui est apparu pendant le confinement, c'est Restez en forme, émission lancée sur France 3, c'est à 10h45, ça marche très bien. Vous avez peur que la chaîne installe le programme dans la durée et vous vole vos téléspectateurs?
Non, j'ai pas peur qu'ils me volent les téléspectateurs. Non. Nous, on est quand même hyper bien installés. On est là depuis 2005. Ça permet aux gens de bouger. Ça leur fait du bien. Tant mieux. Après, ce sont des séances. Eux, ils sont à deux. Je crois qu'ils sont deux coachs sur le plateau. Ils ont des personnes en live par écran interposé, je crois. C'est un peu différent de nous. Si ça fait bouger les gens à un autre horaire, ça permet de faire bouger d'autres personnes, pourquoi pas finalement.
D'accord. Vous avez des animaux chez vous ? Parce que vous présentez l'émission Adopter, mais vous avez présenté l'émission Animaux à adopter et aussi les animaux de la 8. Oui. Vous la présentez toujours ?
Oui.
Vous êtes avec qui alors ?
Bien sûr, je la présente. Comment ?
Vous êtes avec qui alors, vos animaux ?
Ah, j'ai quatre chats, moi. J'ai quatre chats à la maison. J'ai une famille de chats. Non, mais j'ai le père, la mère et les deux enfants.
Ouais.
Voilà, ils ont fait des petits, on les a gardés. Donc, j'ai quatre chats à la maison. Oui, j'adore les animaux. Avec Elodie, ma complice, on fait donc les animaux de la 8. On part en tournage. Bon, en ce moment, on peut pas, mais effectivement, l'émission est diffusée en ce moment, d'ailleurs, tous les jours et le dimanche matin, notre rendez-vous du dimanche matin. Donc, les animaux de la 8, une émission ludique, très familial hein, pour tout public, très pédagogique. On va à la rencontre d'animaux et de passionnés d'animaux, donc vétérinaires, soigneurs, des gens qui ont plein
d'accord.
d'animaux chez eux.
Dernière question d'un mot, ils ont fait du sport pendant le confinement, vos chats ?
Alors, ils venaient... Non, mais ils venaient voir ce que je faisais. C'était assez marrant, d'accord. d'ailleurs. Et les gens me demandaient à voir mes chats parce qu'ils sont hyper curieux. Donc, c'est vrai qu'ils faisaient des petits tours autour de moi de temps en temps. Mais ça reste assez light, quand
voilà.
même.
Et moi, je peux vous dire, mon chat n'a rien foutu. Merci beaucoup, Sandrine Arcizet. Je rappelle, Gym Direct, c'est tous les jours à 6h du matin sur C8 et sur My Canal YouTube Dailymotion. Et tous les jours, un cours en direct à 18h sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous en direct. On va retrouver Hélène Manarino maintenant et son journal de la culture. Mais d'abord...